Dans une cave, nous sommes de retour. Enfin, dans une grotte plutôt.
Ouais, bah, s'il y avait Ewan McGregor avec moi dans la grotte, je dis pas non.
Je sais même pas qui fait l'intro du coup. Attends, mais ça fait tellement longtemps qu'on a oublié quelle était notre phrase d'accroche.
Oh là là, c'est pour dire. Mais en tout cas, on est très très contente de revenir. Bienvenue sur le canapé de Popcorn Therapy, servez-vous une tasse de thé, café ou encore n'importe quoi, puisque là ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas venu que vous êtes libre.
Moi je propose un lait bleu, voilà.
D'accord, bon allez à Tatooine, prenez un lait bleu et c'est parti pour une session blabla autour des séries et du cinéma.
Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial, on parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité. Eh, je l'ai fait de tête.
Ouais, bravo. Impressionnant. Et aujourd'hui, eh bien, ce qui nous plaît, c'est Obi-Wan.
Kenobi. Ouais, on s'était dit, voilà, après notre longue pause, plus ou moins forcée, hein, puisqu'on a été très occupés l'une et l'autre, qu'on ne pouvait pas avoir de meilleur sujet pour revenir que le grand retour du plus grand Jedi de tous les temps. Je ne sais pas si c'est le plus grand Jedi de tous les temps.
Oh, mais pour moi, si.
Bon, on va pouvoir se lancer en débat, peut-être à la fin de l'épisode, savoir si c'est Obi-Wan et le meilleur Jedi. Mais en tout cas, voilà, puisqu'on attendait cette série depuis très longtemps et que bah, c'est le grand retour de Ewan McGregor dans son rôle légendaire, ça, on ne pouvait pas avoir de meilleur prétexte pour revenir, nous aussi.
Exactement. On a hésité hein, sur ce sujet de retour, mais... Obi-Wan a pris le dessus.
Tout à fait. Et ouais, bah du coup, on va commencer par une petite intro sans spoiler pour ceux qui écouteraient cet épisode sans avoir vu la série. Je ne sais pas qui vous êtes, dénoncez-vous. mais bon, on ne sait jamais. Donc, Obi-Wan Kenobi, c'est une série Disney+, une mini-série de 6 épisodes qui était en rumeur et en préparation depuis des années. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on en parle de ce projet Obi-Wan Kenobi. Ça devait être un film à la base, enfin, en tout cas les rumeurs parlaient d'un film, et puis finalement avec l'essor de Disney+ et des séries live de Star Wars, et ben, ça s'est transformé en projet de mini-série. Donc on a 6 épisodes qui font en durée, on va dire autour de 40 minutes en moyenne, c'est plus ou moins ça.
Ouais.
On s'attendait à un peu 30. Plus. Ouais, je crois qu'on s'attendait à un peu plus. Il y a même eu des rumeurs sur le dernier épisode où on parlait d'un épisode d'une heure et demie. Et non, c'était bien aussi 45 minutes ou 50 minutes max. Mais
ouais, je crois que le premier faisait 56. Et puis après, ça n'a fait que descendre. Et c'est remonté à... Ouais, il y a eu le quatrième qui faisait 39 minutes carrément. Enfin, un générique inclus, hein, donc voilà.
Ouais, plutôt 30 minutes.
Ouais, c'est ça. Et c'est le dernier qui est remonté un petit peu avec une cinquantaine de minutes, mais...
Ouais.
Des épisodes assez courts.
Ouais. Bon, l'ensemble nous donne quand même un contenu plus long que ce qu'on aurait eu pour un long métrage, hein, c'est sûr. Mais bon, on aurait pu espérer un petit peu plus, quand même. Mais bon, c'était quand même très très satisfaisant. Et on va donc déjà la série, donc la showrunneuse de la série, c'est Deborah Shaw, qui était une des réalisatrices de certains épisodes de The Mandalorian, et parmi les meilleurs épisodes d'ailleurs de The Mandalorian,
ouais.
Notamment sur la saison 1, elle a fait le fameux épisode, je sais plus c'est quel numéro, mais en tout cas, c'est, je me souviens très bien que c'est celui où il y a Mando qui va retourner, enfin qui va livrer Grogu et qui change d'avis au dernier moment pour aller le chercher. Et pour moi, c'est ouais, c'est un des meilleurs épisodes de la série. Je suis d'accord. Et ouais, elle en a fait d'autres, mais pour moi, c'est vraiment des plus emblématiques. Et oui, on a et puis on a la musique, le thème principal par John Williams. C'est probablement d'ailleurs ça sera le dernier morceau Star Wars qu'il va faire, je crois, puisqu'on sait qu'il va arrêter sa carrière avec le dernier Indiana Jones. Je crois que ça a été annoncé à Star Wars Celebration. Mais il s'est occupé que du générique, puisque le reste de la BO a été faite par Natalie Holt, qu'on a déjà entendu, on a déjà entendu son travail sur Disney+, puisque c'est elle qui est derrière l'incroyable bande originale de Loki, que j'adore, voilà. Et donc, elle nous a offert du John Williams-like hein, sur Kenobi, c'est très... Ouais. Ça reprend vraiment le style John Williams.
C'est vrai, c'est quelque chose que j'aimais bien. Je pense que j'ai préféré la musique de Mandalorian parce qu'elle était quand même, elle avait vraiment son identité propre et elle était hyper originale et il y avait des tonalités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais là, ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement, c'était hyper fidèle à du Star Wars, quoi.
Ouais.
T'avais vraiment l'impression d'une bande-annonce Star Wars, enfin d'une musique Star Wars qui existe depuis des années, des années, des années. Et pour ça, chapeau à elle.
Sans utiliser les thèmes originaux, elle utilise très, très, très peu. Donc voilà, c'est tout à...
Ah,
tout
à on les a entendus à quelques moments clés parfaits dont on parlera plus tard. Mais... Oui.
Bon, et puis le cast, bah, évidemment, Ewan McGregor hein, qu'on retrouve. C'était...
Oui.
C'était ce qu'on attendait.
Et ah, puis, tellement.
Et puis bah, quand même, qui était annoncé, et c'est un peu le suspense, puis que ça a été annoncé avant la sortie de la série, bien sûr, mais Hayden Christensen qui reprend son rôle... Anakin slash Darth Vader.
Ouais, ça, je trouve ça tellement bien.
Ouais, 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 ça, c'était hyper, hyper marquant. Et pour le reste, on en parlera dans la partie spoiler.
Oui. Mais d'ailleurs, est-ce que t'as lu l'article où Hayden Christensen explique qu'il est content d'avoir été son image a été réhabilitée par les fans? Il a fait une interview hyper émouvante où il disait que qu'il se sentait enfin accepté par les fans Star Wars. Et je me suis enfin ça m'a rendu trop triste parce que je me suis dit moi aussi je disais qu'il était pas bon acteur et que je l'aimais pas dans le 2 avec sa relation avec Padmé et que je trouvais ridicule et ouais. Et encore je l'ai revu il y a pas longtemps et mon avis s'est un peu apaisé là-dessus mais ça m'a fait grave de la peine parce que je me suis dit effectivement en tant que fan on n'est jamais content et c'est vrai que moi, je garde un peu mon avis pour moi, mais les gens sur les réseaux sociaux, des fois, sont hyper virulents. Et pour un acteur, de se prendre toute cette haine en mode « t'es nul, t'es pas un bon Anakin, t'es pas un bon Dark Vador », c'est vrai que là, enfin, tout le monde a attendu son retour et c'est assez émouvant quand même.
Ah ouais, non, c'est très émouvant. Enfin, ça faisait quelque chose de le voir faire la promo de cette série avec Ewan McGregor. Et moi aussi, je suis très, très contente qu'il ait eu cette occasion de faire la paix avec le fandom. Il y a vraiment une unanimité derrière lui là, pour cette série, donc c'est très chouette. Et puisqu'on parle de réactions toxiques sur les acteurs, moi je voudrais quand même dénoncer le traitement ignoble dont a fait l'objet une des actrices principales de la série, Moses Ingram, qui joue Riva dans Obi-Wan Kenobi. Et voilà, on va revenir sur la partie spoiler, moi, ce que je pense de son personnage et de son interprétation. Mais spoiler, j'adore. mais au-delà de ce qu'on peut penser de son personnage et de son interprétation, il faut vraiment que le fandom Star Wars se débarrasse de cette frange raciste, toxique, qui l'a pourri de l'intérieur. Et voilà, le fait que Ewan McGregor a dû prendre les devants pour dénoncer ça, c'est... ouais, je trouve ça triste, je trouve ça grave et voilà, on est au soutien de Moses, voilà.
Mais tu vois, je trouve ça bien aussi que les acteurs qui soient tant vénérés par les fans prennent la défense aussi, tu vois, parce que pour je sais plus comment elle s'appelait, Kelly Marie Tran, pareil, il y avait eu des propos racistes ignobles.
C'est sur Rose, les réseaux. Rose dans la postlogie,
ouais. Et il n'y a pas grand monde, il me semble, qui avait pris sa défense, quoi, à l'époque, en tout cas dans les acteurs, réalisateurs, etc., quoi.
bah moins publiquement et peut-être moins avec moins de réactions rapides aussi. Je pense qu'ils ont laissé trop les choses s'envenimer. Mais là
au moins ils ont appris la leçon et là ils ont réagi de manière correcte. Mais
c'est triste quand même, la direction de Disney Plus et de la série est prévenue Moses Ingram avant le début de la série qu'il fallait qu'elle se prépare à ce genre de réaction, et ça a pas manqué, quoi. Donc
c'est scandaleux, franchement. Je comprends même pas qu'on puisse encore en être là à notre époque, quoi.
Ouais, donc voilà, petit coup de gueule envers une frange toxique du fandom Star Wars. Voilà, il faut continuer à être vigilant et à dénoncer dès qu'on voit passer ce genre de choses. Donc on va revenir à des choses plus enthousiasmantes et au vrai cœur de pourquoi on fait cet épisode. Donc là, ça y est, je pense qu'on peut passer au spoiler.
Ouais. Non mais honnêtement, qu'on soit clair, je pense que tous ceux qui vont écouter notre épisode ont vu la série. Il n'y a pas de raison d'écouter, je pense.
Écoute, on ne sait jamais, mais en tout cas, si vous ne l'avez pas écouté, arrêtez-vous là et allez regarder. On vous la conseille très très chaudement. Et donc voilà, maintenant qu'on peut se lâcher, Charline, quelle est ta réaction à cette série?
Bon, alors moi j'étais à fond. Mais déjà j'étais hyper, je crois que c'est la série que j'attendais le plus. Vraiment, c'est vraiment la série de Star Wars qui me hypait le plus. Et j'avais assez peur d'être déçue, mais en même temps, vu le casting... je me suis dit c'est sûr que je vais aimer. On va commencer direct les spoilers. J'ai été hyper emballée par le scénario, par le fait que dans les bandes annonces on a l'impression que ça va tourner autour de Luke et qu'au final ça tourne autour de Leia.
Mais, oui.
Mais c'était tellement intelligent d'avoir fait ça. Et en fait personne ne... Enfin, ce qui est marrant c'est qu'on aurait pu tous s'y attendre parce que effectivement il n'y a aucune raison qu'il rencontre Luke, qu'il y ait quelque chose. Et alors que Leia il la connaît dans le 4, elle lui demande de l'aide. Donc, mais je pense que bon, moi en tout cas personnellement je sais que j'imaginais pas un scénario. Je me disais pas ah, le scénario ça va être autour de ci, autour de ça. Je m'en moquais un petit peu, j'étais juste impatiente et je m'attendais à rien. Mais du coup le fait d'avoir ce scénario là, moi j'ai vraiment adoré. J'ai lu beaucoup de critiques comme quoi le scénario était assez faible et trop incohérent, etc. Mais moi j'ai pas du tout trouvé, et qu'au contraire j'ai trouvé que c'était très malin d'avoir fait ça comme ça, et j'ai adoré la série, quoi.
Ouais, moi je suis totalement d'accord. Pour venir sur les incohérences, alors certes il y a des on va dire pas des incohérences, mais on va dire des facilités dans certains détails d'enchaînement d'événements, de choses, mais vraiment des détails d'enchaînement d'événements. Par contre, dans l'ensemble, dans l'arc, dans ce que traversent les personnages, dans les thématiques qu'ils ont décidé d'aborder, mais moi j'ai eu tout ce que j'espérais, même si pareil comme toi, j'avais forcément peur d'être déçue, mais j'avais quand même des attentes assez... je voulais pas trop me les formuler à moi-même, mais j'avais quand même des attentes assez assez fortes envers comment ils vont traiter le personnage d'Obi-Wan, comment ils vont traiter le contexte avec les Inquisiteurs qu'on n'avait pas encore vu en live, je crois. Enfin, on les avait juste vus dans des séries animées. Où en est Dark Vador, je savais pas trop à quel point on allait le voir ou pas. Pour tout ça, j'ai été... comblé, parce que c'est vraiment le focus de la série. C'est une série qui a, en fait, qui, je trouve que c'est le bon mélange à la fois de l'exploration de la psychologie des personnages et de l'action, donc des trucs très symboliques et des trucs quand même qui sont fun à suivre. On retrouve, je sais que tu l'as beaucoup dit, mais on sent que c'est Star Wars, c'est l'ambiance mais un Star Wars particulier, c'est le Star Wars des films, en fait. C'est vraiment... même s'il y a des références aux animés, s'il y a des références à plein d'autres contenus Star Wars, c'est vraiment d'abord l'ambiance des films, plus que Mandalorian, par exemple, qui a son film.
Son identité propre.
C'est ça, son identité propre. Mais c'est pas un défaut, quoi. Au contraire, c'est ce qu'on pouvait attendre d'une série Obi-Wan. Et c'est pas que du fanservice, c'est vraiment une identité... une des identités Star Wars qui est chouette de voir à l'écran, mais ouais, c'est très réussi pour moi.
Moi, je la comparerais à Rogue One, tu vois. C'est une série Star Wars, que Rogue One est un film Star Wars. Avec son identité, ses points positifs, mais toute cette vibe de Star Wars où... Enfin, je sais que moi, quand j'ai vu Rogue One, plus que Han Solo, j'ai vraiment vu un Star Wars. Et Obi-Wan m'a fait pareil par rapport à Mandalorian, par rapport à Boba Fett, etc., qui pourtant traitent des personnages identiques. Hein. Mais moi, c'est un peu ce parallèle que j'ai vu.
Ouais, ah, pour le coup, je pense que Rogue One, j'adore, hein, mais je pense qu'il a vraiment sa patte un petit peu à part, et du coup, j'ai hâte de voir la série Andor.
Andor, ah, mais ça, bien sûr, ouais.
Parce que pour moi, même rien qu'avec les bandes-annonces, bah, on sent que c'est pas pareil, quoi. C'est vraiment une ambiance un petit peu différente. Bon, je pense que c'est juste le fait que ça tourne pas autour de Jedi aussi, mais et que ça tourne pas autour de la... Enfin, j'allais dire que ça tourne pas autour de la Force, mais si, quand même, Rogue One tourne quand même autour de la Force, avec des personnages secondaires, quoi. Mais, ouais. Mais le but, enfin... Ça traite pas de l'ordre Jedi, ça traite pas de...
Non, je parlais pas au niveau de l'histoire, je parlais vraiment au niveau de la touche... Bah, de la patte graphique, de la musique, de la mise en scène, de l'enchaînement des scènes, etc. Mais je le répète, je pense que je l'ai déjà dit dans un épisode, mais il faut absolument que tu lises le livre Catalyseur avant de regarder la série Rogue
One. Il faut que je me grouille là. En fait, le truc, c'est que là, il va y avoir tellement de grosses séries que j'attends qui vont toutes arriver en même temps, mais ça va être la folie furieuse. Alors, je ne sais pas comment je vais survivre, mais entre fin août et je ne sais pas quand vont finir ces différentes séries, mais entre House of the Dragon, Ring of Power et Andor, c'est la folie furieuse, le mix Star Wars, Game of Thrones et Seigneur des Anneaux, mais je vais mourir d'excitement, d'excitation.
C'est le moment où Marjo voudra qu'on fasse plein d'épisodes.
Oui, mais en même temps, attends, il y a des semaines où je vais avoir les trois séries dans la même semaine. Mais comment ça va être possible?
Ça va, un épisode par soir.
Ouais, je vais vivre et respirer et manger. Tous ces mondes imaginaires, quoi, ça va être la folie furieuse. Mais oui, non, du coup, cet été, j'ai plein de lectures à finir en lien avec ces trois séries. Donc, mais je rajoute Catalyseur, il faut vraiment que je lise Catalyseur.
Mais je te l'apporte mardi.
Ah, yes. Pour en venir, du coup, à la série, bah, je pense qu'on peut se plonger dans ces différents personnages. Et bah, on va commencer par Obi-Wan. Ouais, l'interprétation d'Ewan McGregor, c'est ce que j'attendais le plus, et je pense qu'on a toutes les deux été comblées à ce niveau-là.
Totalement. J'étais un tout petit peu surprise au début. Oui, hein, je tout ne sera pas tout beau, tout rose. Voilà, j'ai quand même quelques mini bémols. Un tout petit peu surprise, parce que j'avais du mal au niveau de la timeline. J'étais là en mode, alors attends. Mais ça, c'est moi qui réfléchis trop, c'est le côté matheux, prof de maths à calculer et tout. J'étais en train de me dire... Là, on est 10 ans, du coup, parce que Luc, Léa ont à peu près 10 ans. 10 ans après. En 10 ans, il a très très peu vieilli. Par contre, on est encore 10 ans après quand Luc va le rencontrer, où là, il sera très 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 vieux, gros cheveux blancs et compagnie. Donc, sur le moment, ça m'a fait vraiment un petit tic en me disant « Bon, il est très sexy, il est très beau, je suis très contente de le voir comme ça. » Mais je m'attendais quand même si dans les bandes annonces je le voyais, hein, à ce qu'il soit un peu plus vieilli, quoi, parce que je trouve que ça fait vraiment un décalage avec le 4, où j'ai du mal à me dire « Ah, c'est le même perso que dans le 4 ».
Ouais, bah c'est plutôt que dans le 4, il est trop vieux, en fait, parce qu'au final, les 10 ans qui sont passés, ils sont vraiment passés dans la réalité, pour le coup, et c'est juste, c'est juste que Ewan McGregor ne vieillit pas. Mais non, mais en fait, si, quand même, je trouve qu'ils ont gardé ce à quoi... Ewan McGregor ressemble aujourd'hui, donc quelqu'un qui vieillit très très bien, avec des rides qui lui vont très très bien, mais qu'il est toujours aussi sexy. D'ailleurs, ça me fait trop rire, parce qu'on est censé, quand on le retrouve dans le premier épisode, on est censé comprendre qu'il est au fond du trou, qu'il est dans un mauvais état mental, physique, etc. Et ils sont obligés de nous le dire, genre qu'il pue, qu'il est vraiment repoussant, alors qu'il ne l'est pas du tout, parce que... Parce que voilà, le Obi-Wan Hermite, il est quand même sexy, quoi. Donc,
Ah bah, plus que...
Mais non, moi j'ai adoré, parce que c'est vraiment... je pense qu'il me manquait à la fin de l'épisode 3, de voir à quel point ce qui s'est passé dans l'épisode 3 a affecté Obi-Wan. Mm. Et parce que quand on retourne dans l'épisode 4, on sent qu'il a fait la paix avec... enfin, de toute façon, dans l'épisode 4, forcément, il n'y avait pas tout ce background au moment où McGuinness a interprété le personnage, donc il ne pouvait pas apporter cette profondeur, c'était pas possible. Mais du coup, j'attendais vraiment la manière dont il se remet ou pas du trauma, quoi, de ce qui s'est passé dans l'épisode 3. Et ça nous met en plein dedans dans le premier épisode. Moi, le premier épisode, je l'adore, quoi. Je trouve que c'est un de mes préférés. Ah oui. Des six. Et vraiment, toute la manière... pareil, il y a des petits moments où... qui nous font un peu genre on n'a jamais vu Obi-Wan Kenobi comme ça, genre quand il s'énerve avec Leia à certains moments tu dis mais jamais Obi-Wan se comporterait comme ça alors qu'en fait c'est parce qu'il est pas lui-même quoi. Et du coup ça m'a fait beaucoup penser au Luke en fait de l'épisode 8 notamment et oui. Du coup j'ai trouvé que c'était un chouette hommage quoi aussi un chouette parallèle mais ouais, et puis l'évolution de ses costumes aussi, j'ai adoré la manière dont il, petit à petit, reprend des morceaux de costumes Jedi, ouais.
Alors ça, j'ai adoré la symbolique, je l'ai remarqué tout de suite, hein. Mais par contre, avec Tip, du coup, on, quand on l'a regardé, on se disait, mais il peut pas être un peu plus discret parce qu'on cherche un Jedi et lui, il devient de plus en plus Jedi.
Ah, mais dans le premier épisode, genre, il porte son sabre à sa ceinture, je me dis, mec, c'est pas du tout discret.
Mais tu vois, moi c'est ça quand je parlais d'une légère cohérence, ouais. Alors effectivement c'est aussi des facilités, c'est aussi pour le symbole. Je pense que la symbolique est beaucoup plus importante dans cette série que qu'autre chose, mais quand tu le vois marcher avec son sabre laser, t'es là, t'es sérieux, ouais. Mec.
Ah ouais, je suis pas aussi la réflexion, je vois, mais cache-le, mais c'est, oui, et puis du coup, de retrouver toutes ces relations avec les autres personnages, enfin avec Bail Organa, je sais qu'on va pas en parler peut-être plus en profondeur, mais enfin je trouve, je sais pas, le personnage de Bail, il est hyper hyper chouette. Et puis Owen,
Owen. Alors moi Bail Organa c'est un de mes persos vraiment favoris, mais parce que j'adore cet acteur. Je le connais entre autres dans Sons of Anarchy, enfin j'adore cet acteur, et du coup j'étais très contente de le revoir et d'en voir plus sur lui et de voir Alderaan, tu vois. Oh là là. C'est vrai que on la voit pas, hein. Donc le fait de le voir là où il habite, de le voir élever les gars, c'était génial. Mais c'est vrai que Owen a un charisme, quand il tient tête à Reva, au tout, ouais. Début, Reva, t'es là, t'as les frissons, tu sais qu'il va pas mourir, tu sais que... mais même en le sachant, je trouve que la scène est vachement forte,
quoi. Ouais, moi il m'a fait, en fait, comme forcément j'ai encore en tête les secrets de Dumbledore, voilà, et que dans les secrets de Dumbledore, mon personnage préféré c'était Abel Forth, il m'a fait vraiment une impression d'Abel Forth, donc le frère d'Albus Dumbledore, qui est un peu ce côté... renfrogné et qui défend, enfin voilà, et du coup voilà, il m'a fait vraiment penser à lui, mais je l'ai trouvé vraiment très 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 marquant. Et du coup sur ces face à face entre Owen et Obi-Wan, c'est très chouette, que ce, et puis l'écho, ouais. Entre le premier et le dernier épisode, enfin quand il lui dit tu veux le rencontrer à Luke, tu vois, en grognant genre you want to meet him,
c'est
genre
c'est tellement trop mignon.
Ouais. Et puis Beru, du coup, la tante aussi, qui est tellement badass. Je m'attendais tellement pas à ça aussi dans le dernier épisode.
Mais moi non plus. Quand elle prend les armes et tout, que Owen est là, ah bon, mais oui, on se bat, c'est chez nous.
On devrait peut-être s'échapper dans le désert, mais non.
Mais je m'en doutais un peu qu'on allait le revoir dans... Enfin, je m'en doutais et j'espérais. J'avais deux attentes après avoir vu le premier épisode. Ma première attente, c'était Qui-Gon.
Évidemment.
Il nous l'avait trop teasé. Je me suis dit, effectivement, quand il va être en paix, on va avoir Qui-Gon. Donc, je l'attendais vraiment avec impatience.
Ils ont attendu le dernier plan, hein, putain.
Ah bah, c'était sûr. Et la deuxième chose que j'attendais, c'est quand il donne le vaisseau, du coup, pour Luke, et qu'il lui rend, comme dans le 4, on voit Luke jouer avec le vaisseau, ouais. Je me suis dit, bon, il va rencontrer Luke, on va revoir Luke, on va revoir Owen. Donc, j'avais quand même aussi cette impatience-là qui te fait tenir aussi en haleine toute la série, quoi.
Ouais. Ah, carrément, mais c'était très bien construit et très satisfaisant, et ça c'est du bon fan service, quoi. C'est vraiment c'est pas le fan service pour le fan service, ça fait sens par rapport à ce qui se passe dans le 4, c'est vraiment très très chouette, quoi.
Exactement. Mais je trouve que de manière générale Le fanservice, on en parle beaucoup, on en a parlé beaucoup dans Spider-Man, parce que moi je trouvais qu'il avait été à outrance. On n'a pas fait de critique de Doctor Strange ? Non, je ne crois pas, puisqu'on n'a pas aimé toutes les deux, donc on n'a pas fait de critique. Bah là, j'ai trouvé... Alors si, j'ai fait une critique avec la radio, parce que, du coup, annonce pour ceux qui nous écoutent, je fais des chroniques avec la radio de Montreuil, qui vont être adaptées en podcast. Cool. Et c'est une extension de Popcorn Therapy qui s'appelle Pause Popcorn. Et du coup, ce sont des micro-critiques de 7 minutes. Donc, en 7 minutes, je présente deux films qui sont soit au cinéma, soit sur les plateformes. Et là, j'ai donné mon avis sur Doctor Strange, qui n'est pas très positif, hein, faut l'avouer. Et, entre autres, parce que trop de fast-service, mais inutile. C'est juste, regardez les fans, on vous met quelqu'un que vous aimez bien. Là, c'est pas ça, c'est subtil, c'est symbolique, c'est... Effectivement, comme tu le dis, ça a fait sens avec la suite des films, et c'est génial.
Bah, c'est pas que du fanservice, c'est de la bonne narration, quoi. C'est vraiment utiliser des éléments qui placent bien la série dans une certaine histoire plus large, et c'est très cool, quoi. Mais pour venir sur, on l'a dit, un des gros points forts de la série, c'est la petite Leia, et donc du coup, si on continue à parler d'Obi-Wan Kenobi... ce que Leia apporte à Obi-Wan et la manière dont elle est la raison pour laquelle Obi-Wan réussit à se retrouver lui-même et à retrouver espoir dans le futur et voilà. Et puis cette jeune actrice Vivienne Lyra Blair qui est incroyable. Alors moi je veux quand même dire première réaction avec le premier épisode. J'étais extatique d'avoir la petite Leia, mais complètement, complètement extatique de voir Alderaan, etc. De la voir même elle. Enfin, je l'ai trouvée même physiquement, c'était un très, très bon choix. Peut-être un chouïa trop jeune, mais du coup, je l'ai vite oublié. Je pense que c'est surtout mon problème avec les enfants acteurs dans l'ensemble. Il faut vraiment qu'ils soient exceptionnels pour que j'accroche. Dès les premières secondes. Voilà, il m'a fallu juste un épisode, enfin le deuxième du coup, parce que le deuxième aussi, on les a eu les deux premiers en même temps. Donc je pense que c'est plutôt dans le deuxième d'ailleurs qu'elle m'a un petit peu agacée. Enfin, je l'ai trouvée agaçante, mais je me suis dit, comme Leia peut être agaçante, donc du coup, je me disais pas, ça n'a rien à faire ici. Mais voilà, j'ai quand même eu une petite pointe, un moment d'agacement, mais peut-être aussi parce que j'étais trop dans la tête d'Obi-Wan et que il est un petit peu agacé aussi. Mais dès l'épisode 3, j'étais complètement in love de cette petite actrice et elle a fait un travail incroyable et elle est adorable. C'est Leia, quoi. C'est vraiment Leia.
Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Moi, elle m'a plu dès le début. La seule chose qui m'a déplu, c'est sa manière de courir.
La pauvre. Mais si... pour vous dire, cette scène, franchement, je sais pas pourquoi ils l'ont gardée. Je sais pas, mais ça marche pas.
Mais c'est ridicule, parce qu'elle court à deux à l'heure, et du coup, eux, ils arrivent pas à l'attraper. Enfin, t'es là, mais... Et c'est un chanteur connu, en plus, qui joue son ravisseur.
Oui, alors je connaissais pas, mais ouais.
Je l'ai pas reconnu, hein. C'est un chanteur des Red Hot, je crois, si je me trompe.
Je crois, effectivement, ouais.
Mais je sais plus. Mais je l'avais pas reconnu, j'ai vu ça sur les réseaux plus tard. Mais elle court, mais alors vraiment comme un enfant de 2 ans. Et ils sont là en train de galérer à la rattraper. C'est un peu ridicule. Mais sinon, je l'ai trouvée attachante dès le début. Et vraiment, je trouve qu'elle a été. Enfin, son caractère a été hyper bien étudié. Et Obi-Wan, il le résume à la perfection à un moment. Faut que je retrouve la phrase. Quand il dit tu es aussi sage, à bon cœur, toutes les qualités qu'avait ta mère, mais tu es aussi passionnée, sans peur et tout comme ton père. Et cette scène est hyper émouvante. Et effectivement, je trouve qu'ils ont bien réussi à mettre le caractère d'Anakin et de Padmé dans le sien. Et ça colle tellement bien. Et c'est...
Ouais.
Et en même temps, t'as l'impression aussi de voir une version miniature de Leia. Donc, je trouve que toute la chronologie du personnage, son background et son futur est respectée. Et moi, c'est ça qui fait que j'ai adoré cette gamine.
Ah non, mais c'est clair. Enfin, l'écriture de ce personnage est juste parfaite, son interprétation aussi. Je trouve que ça donne une profondeur aussi à la Leia de l'épisode 4, de se dire... elle a traversé ça quand elle était enfant. Elle en a tiré des leçons, elle en a tiré des une elle en a appris elle a appris à Enfin, elle a découvert des choses dans cette série, sur elle-même, sur le monde, sur ce qu'elle a envie d'être pour les autres, cette source de réconfort, cette source d'espoir, cette volonté de pas de se battre. C'est très, je trouve que c'est très très beau. Et d'ailleurs, parce qu'on n'a pas prévu d'en parler en particulier, mais je trouve du coup le personnage de Tala, qui est incarné par Indira Varma. Qui du coup est un très très beau personnage que j'ai trouvé aussi très très bien écrit, et ce qu'elle apporte au personnage de Leia et au personnage d'Obi-Wan, c'est très très beau. Donc voilà, une ancienne officier de l'Empire qui se rend compte de ce qu'elle fait, et qui du coup rentre dans la résistance. Enfin, c'est pas encore la rébellion, mais la proto-rébellion avec le The Path, le chemin, je sais pas comment ils l'ont traduit en français.
La voix,
c'est The Path en anglais, mais est-ce qu'ils l'ont traduit, je sais pas, mais comment ils l'ont traduit, je me souviens pas, mais en tout cas, oui, bah, d'essayer de sauver des personnes sensibles à la force pour pas qu'ils se fassent attraper par les inquisiteurs, et cet agent double, quoi, qui est très, très beau, quoi, enfin, avec un bel arc de rédemption. Enfin voilà, on voit pas son passé sombre, mais elle en parle, et du coup de voir que c'est quelqu'un qui a un passé dans l'Empire qui a tout ce trajet de rédemption, bah ça marque, j'imagine que ça marque Leia, j'imagine que ça marque forcément, ça marque Obi-Wan, donc dans la manière dont tous vont considérer la possibilité de rédemption d'Anakin, je pense que c'est important d'avoir un personnage comme Tala et Riva, dont on va parler aussi, mais ouais.
Oui, lui, elle, on va en parler un peu plus. Mm.
Mais ouais, bah du coup, Vivienne Lyra Blair, on espère la revoir, je sais pas, mais en tout cas...
Ouais, et qu'elle va pas tomber dans la malédiction des enfants acteurs.
Star Wars, ouais, mais en tout cas, là, je trouve pareil que là, pour le coup, il y a une unanimité derrière cette actrice, cette jeune actrice aussi. Je crois qu'elle a séduit tout le monde. Donc ouais, j'ai bon espoir qu'on va la revoir.
J'espère aussi.
Bah, on a un petit peu parlé d'Anakin.
Ouais, on peut quand même...
Ouais, alors ouais, je savais pas... On reparlait. J'avoue qu'avant la série, je savais pas à quel point on allait le voir. Enfin, qu'on allait te voir Darvador, je me suis dit, bon, ça se trouve, ils vont nous le garder juste pour le dernier épisode, ou il va apparaître un petit moment. Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'on le voit autant. Et j'en étais très, très contente. Même si c'est toujours un petit peu perturbant, en fait, parce que nous, on s'attend à voir Hayden Christensen. On voit Dark Vador avec la voix de... Oh, j'arrive jamais à me souvenir de son nom. Earl...
James Earl Jones,
voilà, tout à fait. Donc du coup, on se dit, il est où Hayden, quoi? Est-ce qu'il est sous le masque ou pas? Sachant qu'il y a les doublures pour le combat. En fait, je sais pas, je pense que c'est tout ce qu'il y a autour du personnage de Dark Vador, où à chaque fois qu'il y a Dark Vador, tu dis, c'est qui? C'est qui est derrière? Je sais pas si c'est fait ça, mais j'ai toujours ce petit moment.
Bah pareil, et moi je me suis dit, je me suis dit, j'espère qu'on va le voir plus, parce que le pauvre, effectivement, il est derrière le masque, en cascade, c'est pas lui, c'est pas sa voix, et je me suis dit, j'espère vraiment qu'à un moment, il va retirer le masque.
Et ben, ils l'ont fait, du coup, avec trois manières. Alors, j'ai adoré, dans l'épisode 3, le moment où Obi-Wan a une vision, enfin, il croit voir Anakin dans le désert, là, enfin, dans le... on a juste sa silhouette encapuchonnée qui est en fait le Anakin de l'épisode 3, et je sais pas pourquoi on aperçoit juste son visage, et c'est la première fois on voit le visage du coup d'Aiden, et ça m'a fait de l'effet. Mais
on le voyait pas au tout début de l'épisode 1 quand il vient tuer les...
Oui, t'as raison.
Si hein.
Ouais.
On le voit rapidement au tout début de l'épisode 1.
Exactement, ouais.
Mais moi, je ne me rappelais plus parce que l'épisode 3, il est très triste pour moi, donc je le regardais assez peu. Et je ne me rappelais plus si on le voyait, cette scène, dans l'épisode 3, ou du coup, si elle avait été retournée ou pas.
Elle a été retournée parce qu'on ne voit pas... En fait, c'est ça qui a été fait de manière assez intelligente dans l'épisode 3, c'est qu'on ne voit pas vraiment Anakin tuer les younglings, mais ce n'est pas les padawans, je ne sais plus comment ils ont traduit en français, mais... Bref, les
je
petits.
Sais pas, je l'ai regardé en anglais.
Les petits. Les bébés Jedi. Et on le voit juste avant, ça coupe. Et puis après, on le voit à travers les images enregistrées que revoit Obi-Wan. Et là, cette fois-ci, on le voit de manière frontale, quoi, du point de vue des younglings en plus. Donc, ouais, ça a fait son petit effet que la série s'ouvre là-dessus. Et puis de nous rappeler aussi, bah voilà, comment Anakin est devenu Dark Vador, quoi. Et puis, et puis bon, bah évidemment, on a pas mal de scènes avec Dark Vador en Dark Vador. Puis bah, le dernier épisode où on a le masque à moitié cassé.
Ah, c'est mes scènes, je crois que c'est une de mes scènes préférées.
Ah ouais, moi aussi. Et
où t'as...
Ouais, vas-y.
J'allais dire, où t'as sa voix qui se mêle à la voix de James Earl Jones, du coup, enfin, avec le souffle, t'es là... Oh ça m'a... Mais j'avais le souffle coupé, tiens, justement.
Ouais. Ah non, non, mais c'était incroyable, cette scène... Alors, qui évoque, pour ceux qui ont vu Rebels, qui évoque le duel avec, avec Ahsoka.
Ahsoka,
où c'est vraiment très, très proche avec le casque à moitié cassé et cet échange entre les deux. Mais là, c'est de voir que c'est Hayden avec un maquillage, avec ce jeu sur la voix qui est juste incroyable. Et la lumière, là, qui passe la lumière bleue et la lumière rouge sur son visage, c'est genre « Oh !»
Ah, c'était... Ouais, c'est vraiment... Mais quand tu vois ça, je comprends pas les gens qui disent « Oh, la série est vraiment bof ». Tu peux pas, quand tu as un moment pareil, aussi symbolique et aussi bien réalisé, parce que on va spoiler un petit peu Mandalorian, parce que je pense que des gens ont vu, quand Luke est dans Mandalorian, même si t'es content que Luke soit là, la scène est tellement popée de nulle part que t'as quand même une petite partie de toi qui te dit « Oh, c'est dommage ». Alors que là... Tout est parfait, tout est beau, tout est nickel, tout est...
Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des qualités visuelles de la série, mais on peut peut-être en profiter pour en parler. Alors, je pense que c'est un peu inégal en fonction des moments et des épisodes. Le premier est sublime, vraiment. Je l'ai trouvé, ça m'a scotché. Ses qualités cinéma, sans aucun doute. Le deuxième est très, très beau aussi, avec l'ambiance... Blade Runner, un petit peu. Après...
Moi, j'ai moins aimé le deuxième, mais... Parce que... Enfin, j'ai trouvé ça cool qu'on change de planète, et dans le 3, encore une différente. Mais visuellement, ça m'a moins fait rêver.
Ouais, ça m'a moins fait rêver, mais c'était beau quand même. Enfin, c'était...
Mais c'était... Oui, oui, c'est...
Alors qu'il y a certaines scènes... notamment, dans le 5, où j'ai trouvé ça... On est juste dans des couloirs, en fait. Enfin, dans le 5, dans la grotte, quand ils attaquent voilà, les résistants. C'est pas encore les résistants, mais le lab de PAF. Et il y a des moments, certains plans qui sont un peu bons. Le 3, je l'ai beaucoup aimé. Mais pareil, visuellement, il est moins marquant. Mais...
Non, les meilleurs, c'est le 1 et le 6. Hein. Enfin, pour moi. Moi, j'ai préféré visuellement et scénariquement le 1 et le 6.
Ouais, non, bah, moi aussi, je pense. Moi aussi. Et surtout, le 6, ce plan, pour moi, qui me reste en tête, bah, c'est avec Obi-Wan et Dark Vador, au moment où ils se rencontrent sur la planète, où il y a ce plan large où ils sont tous les deux, avec ces lunes derrière et cette. Oh là là, mais c'était. T'as l'impression que c'est un concept art de Macquarie direct, quoi, qui est mis en scène. Et c'est très très beau, quoi. Enfin, ça m'a. Et puis même, dans cet épisode aussi, il y a des très très beaux plans de Tatooine. On a à nouveau ce plan avec Tatooine au crépuscule, avec les deux soleils. Avec une autre ambiance de lumière que dans l'épisode 4, mais ça fait vraiment référence aussi à l'épisode 4. Et c'est très beau, quoi. Donc.
En parlant de référence, je sais que je te l'avais envoyé, mais le Dark Vador avec ses deux sabres, alors que dans le 3, il avait... Enfin, des deux sabres rouges, alors que dans le 3, il avait un sabre bleu, un sabre rouge, et que dans le 2, il avait un sabre bleu, un sabre vert. Quand tu vois cette évolution-là, tu te dis que même les tout petits détails, ils y ont pensé, quoi.
Ah ouais, 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 non, c'est clair. C'est très, très marquant. Mais donc, du coup, pour revenir à Dark Vador, Anakin, bah il y a le ouais, on n'a pas parlé, mais il y a le flashback du duel avec Obi-Wan qui fait aussi que l'épisode 5, je l'ai beaucoup aimé parce qu'avec ce parallèle entre leur entraînement, leurs souvenirs de leur entraînement et les défauts de l'un et de l'autre et puis comment ils ont utilisé comment Anakin refait toujours les mêmes erreurs alors que Kenobi progresse, enfin en tout cas continue à avoir le dessus parce qu'il connaît très très bien Anakin et il sait qu'il continue à faire toujours les mêmes erreurs, qu'il a jamais réussi à aller au-delà et toute la symbolique quand on voit que en fait c'est aussi Dark Vador qui se souvient de ce souvenir et il est dans l'hyperespace et c'est du coup l'effet tunnel et donc du coup de se dire que Anakin est dans ce tunnel et qu'il voit et qu'il n'arrive pas à prendre du recul, qu'il est complètement obnubilé par ce qui s'est passé, par son obsession pour Obi-Wan, et du coup les deux scènes, donc il y a ça mais qui arrive entre, parce qu'on n'a pas parlé, mais aussi de la première rencontre entre Dark Vador et Obi-Wan où...
Alors moi elle m'a moins, en fait la scène qui m'a le plus marquée avant cette rencontre, parce que cette rencontre finalement c'est pas ce que j'ai préféré, c'est quand il apprend qu'Anakin est en vie,
ouais, à l'épisode 2, ouais.
Et là l'expression sur son visage, c'est là où tu vois que mais il mérite un Oscar, Ewan McGregor, c'est un excellent acteur. Vraiment la tristesse, la peine,
le choc,
tous les le mix, le choc, ouais, tout se lit sur son visage, quoi.
Bah oui, parce qu'en fait, enfin pour moi, il se passe tellement de choses là dans cette réaction, parce que on voit qu'il est traumatisé depuis le premier épisode de ce qui s'est passé et du fait qu'il a tué, il pense avoir tué son frère, quoi. Et là, de se rendre compte dans un même instant, non seulement peut-être une espèce de soulagement, se dire je l'ai pas tué, oui, et en même temps la culpabilité, se dire mais c'est devenu un monstre qui est responsable de centaines de morts et j'en suis coupable, je suis toujours coupable de ça, et de se dire et de se dire qu'il a, oui, qu'il est probablement en train, que Anakin aussi est dans un cycle de souffrance infinie aussi, et du coup de le voir après, du coup dans l'épisode d'après où il le voit, il dit mais qu'est-ce que t'es devenu, enfin, et oh là là, et que du coup Dark Vador répond ce que tu m'en as, enfin je suis devenu ce que tu as fait de moi, et qu'au final dans le dernier épisode il dit il y a Obi-Wan qui dit qu'il est désolé. Donc il peut lui dire en face qu'il est désolé, et du coup Anakin qui dit non mais c'est moi qui me suis infligé ça à moi-même. Ah ah là là, rien que d'y penser là, j'ai les poils qui s'hérissent. Mais ouais, non, c'est très 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 fort, et ça veut dire tellement de choses pour les deux personnages, quoi. C'est
Et en fait tu vois là, si on reparle d'incohérence, je sais que cette incohérence-là est beaucoup, beaucoup sortie, parce qu'on ne comprend pas, et moi la première, hein, pourquoi il les laisse en vie, à part pour aider le scénario pour la suite, mais pourquoi est-ce que, alors on est d'accord, Anakin sent Obi-Wan la force, donc il doit sentir qu'il est en train d'utiliser la force pour sortir des cailloux, pourquoi il ne l'achève pas, et puis pourquoi du coup Obi-Wan à la fin ne l'achève pas non plus, alors qu'il sait ce qu'il va le faire par la suite, ce qu'il fait déjà, enfin, il lui donne juste, enfin, comment tu peux être en paix en sachant que tu laisses un monstre, entre guillemets, dans la réalité, dans la vie, qui va pouvoir tuer des milliers de personnes. Oui, bien sûr que c'est hyper incohérent, mais en même temps, cette scène était tellement symbolique pour plein d'autres choses, pour la psychologie du personnage et pour tout ce que tu viens de dire, que moi je pardonne, tu vois. Ça me dérange pas.
Bah, pour moi, c'est vraiment. C'est pas une incohérence quand on considère l'histoire dans son ensemble, et évidemment. Mais surtout la progression d'Obi-Wan dans la série, parce que pour moi, là, le choix qu'il fait à ce moment-là de laisser Anakin et de pas l'achever, etc. C'est il choisit, en fait, parce que surtout ce qui le fait survivre juste avant, quand il est sous les rochers, c'est de penser à Luke, de penser à Leia, et donc de penser au futur et à l'espoir qu'il y a dans le futur. Et donc il décide, et c'est ça qui le reconnecte à la force, quoi. C'est de penser à ce futur et à ce que peut apporter ce futur de bon. Et donc je pense que plus ou moins inconsciemment, la force le reconnecte aussi à cet espoir qu'il n'exprime pas encore, mais cet espoir qu'Anakin pourra être pourra revenir du bon côté. Et en fait, il décide, je pense, à ce moment-là, de se dire, bon, bah, c'est plus mon rôle.
Mon combat.
Enfin, c'est surtout, voilà, ouais. je passe le relais, je passe le relais à ce futur. Moi, je pourrais pas ramener. C'est comme ça, c'est quand même ce qu'il dit à Anakin en face, c'est que il fait le deuil quand même de dire, c'est pas moi qui vais te ramener du bon côté. Mon ami est vraiment mort. Mais comme il est reconnecté à la force et qu'il est reconnecté à l'espoir dans l'avenir, et ben voilà, il va passer le relais et en se dire peut-être que si c'est pas moi qui le ramène, ça sera ses enfants, quoi. Et donc pour moi, c'est surtout ça ce qui se passe à ce moment-là. Et du côté d'Anakin, Dark Vador, il est toujours en lutte, quoi. Et je pense que c'est ça qui il sera jamais. Et au final, il a pas encore fait lui ce chemin qu'il y fait pendant les 10 ans qui viennent, qui font qu'il va tuer Obi-Wan, parce qu'il est encore, trop en lutte, et il a pas encore lâché totalement Anakin, quoi. Donc.
Ah, j'aime beaucoup ton explication.
En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et puis, c'est surtout, je trouve que c'est un geste tellement beau aussi de se dire que Obi-Wan fait le choix de briser le cercle de la violence et c'est ça qui le reconnecte à la force. Et c'est ce que va faire Luke. Au final, il ouvre la voie de Luke. Luke n'achève pas... Obi-Wan fait le premier geste que va accomplir finalement Luke en refusant d'achever son père. Et du coup, en le ramenant du bon côté par ce geste, quoi. Donc c'est beau.
C'est beau. Non mais c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, mais totalement. Moi j'étais restée beaucoup plus terre à terre en mode... Enfin, il est décrit comme quelqu'un de hyper sage, puisque c'est pour ça que moi je te dis, pour moi Obi-Wan c'est le meilleur Jedi, puisqu'il est décrit comme plus sage que Yoda et plus puissant que Mace Windu. Donc pour moi déjà, voilà, il est en haut de tout. Et effectivement, je me suis dit, il est hyper sage, et il doit y avoir une explication, il veut pas le tuer parce que ce serait juste achever, en plus il est à moitié en train de mourir, ce serait juste vraiment l'achever et c'est pas non plus la voie des Jedi, mais j'avais pas vu tout ce que tu viens de dire derrière et tu m'as encore plus convaincue que je ne l'étais déjà.
Et pour continuer dans l'argument de que c'est le meilleur des Jedi peut-être, en tout cas avant que Luke arrive j'imagine, mais il brise aussi l'erreur qu'ont fait les Jedi dans la prélogie et qui va continuer à faire un petit peu dans son enseignement envers Luke de dire que l'attachement c'est mal, etc. Là vraiment c'est parce qu'il est attaché à Leia, parce qu'il s'est attaché à Luke, parce qu'il il refuse de lâcher son attachement à Anakin, qui fait le bon choix, quoi, qui sort des erreurs qu'ont fait Mace Windu, des erreurs qu'ont fait Yoda, de transformer l'ordre Jedi en quelque chose de beaucoup trop strict. Et de condamner l'attachement, alors qu'en vrai, c'est ce qui est. C'est une part qui est hyper importante de la force. Donc, symboliquement aussi, c'est assez fort ce que fait Obi-Wan dans cette série, parce qu'il reconnaît les erreurs qu'ont fait les Jedi, et que lui, il a fait en tant que membre du Conseil de l'Ordre Jedi. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est Qui-Gon, quoi, qui va le guider pour la suite, parce que Qui-Gon, c'est le premier à. Je pense aussi à pas être totalement corrompu dans le Jedi, corrompu par ce qui était devenu l'ordre Jedi à l'époque Mace Windu, quoi. Donc,
de toute façon, j'aime pas Mace.
Voilà, on a un peu bâché Mace Windu en passant. Tout ça, c'est la faute de Mace Windu. donc c'est beau. Et donc, pour finir sur des beaux arcs de rédemption aussi, on peut parler de Riva un petit peu.
Moi, j'ai du mal avec Riva. Je t'avoue que, en fait, j'ai trouvé que son enfin, j'étais pas hyper fan de son interprétation au début. En fait, c'est tout bête, hein. Mais c'est quand elle crie, je ne la trouve pas convaincante.
Ouais, et c'est...
Voilà.
Ouais.
C'est bête, hein, mais c'est au niveau de sa voix, quand elle crie, je la trouve pas... Et c'est comme dans Aladdin live action, où je dis Jafar, c'est pareil, sa voix et tout, ça fait que pour moi, il est pas convaincant. Et voilà, c'est pareil, sa voix, quand elle crie, j'y arrive pas. Et j'ai eu beaucoup, j'ai adoré ce retournement, ce twist, comme quoi finalement elle est pas à fond avec Anakin, mais en fait elle cherche à se venger un peu de tout le monde, un peu d'Obi-Wan qui effectivement les a abandonnés, d'Anakin qui a tué tous ses copains, etc. Ça, j'ai vraiment aimé, je trouvais ça hyper intelligent d'avoir fait ça comme ça, et de pas l'avoir fait juste disciple d'Anakin du début à la fin. Par contre, je l'ai trouvé mal exploité. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre, enfin, quand elle veut tuer justement Anakin, je me dis, mais il y avait plein d'autres moments où c'était plus simple. Par exemple, quand elle était derrière et qu'il était là en train de donner toutes ses forces pour ramener le vaisseau, pourquoi elle le tue pas là? Enfin, il y a plein de moments où je me suis dit, mais je comprends pas, mais pourquoi, mais comment? Bon, on a parlé de facilité scénaristique, oui, dans le tunnel, quand elle arrive au bon moment. Et en fait, il y a eu tellement de facilité scénaristique liée à son personnage qu'elle ne m'a pas convaincue. Et le plus gros, c'est quand même, elle se fait transpercer, alors, une fois quand elle est petite, une deuxième fois là, et elle arrive à se retrouver sur Tatooine en pleine forme, on ne sait pas comment, plus rapidement
en
que...
En pleine forme, c'est relatif.
En pleine forme, plus ou moins, mais oui, c'est relatif, mais... Elle est au plus mal allongée, elle se traîne au sol, et elle arrive dans la scène d'après à être debout, on ne sait pas comment elle a trouvé de vaisseau, sur Tatooine avant Obi-Wan. Je pense que toutes ces facilités qui ont été liées du coup à son personnage ont fait que j'ai pas été convaincue. Mais je dis pas que c'est un mauvais personnage ni que elle l'interprète mal. C'est juste moi perso, ça m'a pas transformée.
Ouais. Alors je suis d'accord avec certaines incohérences qui du coup la font un peu popper toujours à des endroits et dire bah tiens c'est très pratique. Mais après, par contre, je suis assez d'accord. Au début, j'étais un peu perturbée par son interprétation. Mais du coup, plutôt que me dire, c'est... Parce que je la connaissais pas, cette actrice, mais j'en avais eu des échos, comme quoi c'est quand même une excellente actrice qui a fait d'autres séries où je me suis dit, ça doit être un choix d'interprétation qui a un sens. Et du coup, assez rapidement, avec en plus les discussions qu'il y a eu autour, j'ai tout de suite compris que c'était forcément la Padawan qu'on voit dans le premier plan.
Ah bah direct.
Ouais. Et du coup je me suis dit ça cache quelque chose. Du coup elle essaye un peu trop d'être l'inquisitrice parfaite, et donc tout de suite je me suis dit et donc j'ai tout de suite interprété tous ces moments où justement ces cris ça sonne faux comme un choix en fait de l'actrice de montrer qu'elle est qu'elle essaye un peu trop en fait d'être ce qu'elle veut apparaître qu'elle est, et du coup je suis plutôt attachée à ça. Et moi, ce qui a tout changé, c'est l'épisode 3 quand elle est dans le tunnel et qu'elle voit le symbole des Jedi et sa réaction de peine en fait, de se dire et tout de suite je l'ai vu comme voilà cette rancœur qu'elle a. C'est pas une rancœur envers sa vraie rancœur c'est de pas avoir été sauvée, quoi. Et donc tout ce parcours, quelqu'un qui est vraiment du côté obscur, ça y a pas de doute, elle est du côté obscur, mais pour des raisons qui la rattachent à des sentiments plus plus noble, entre guillemets, enfin plus lumineux que...
Ouais, non, oui.
Et du coup,
ouais.
Je trouvais que c'était un personnage qui, pour le coup, était assez original dans Star Wars, qu'on n'avait pas eu trop... Dans tous les personnages du côté obscur, elle peut faire penser à certains moments à Kylo Ren, elle peut faire penser à Anakin, elle peut faire penser à Dark Vador, mais en même temps, elle a ce parcours qui est assez unique. Et j'étais très très touchée par la dernière scène, quoi, avec elle, et je trouve la manière dont elle craque en fait, et où elle se donne la possibilité de rentrer dans un parcours de rédemption, mais où elle meurt pas. J'avais très très peur aussi qu'il la fasse mourir à la fin, parce que j'aurais trouvé ça ça aurait été trop dur bis repetita de Ben Solo, de Anakin, etc. Ou à partir du moment
où... Moi, j'étais persuadée qu'ils allaient la faire mourir.
Ouais. Alors, moi, j'ai craignais, mais j'espérais que non, parce que après, je me suis dit, il y a Tala, donc ça donne un espoir de quelqu'un qui repasse du bon côté et qui a l'occasion d'essayer de faire amende, d'essayer de racheter ses torts. Donc, j'espère vraiment, vraiment qu'on aura la suite de son parcours, parce que j'ai très, 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 très envie de voir ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va retourner du côté de la voix pour aider les jeunes sensibles à la force à s'échapper? Est-ce qu'elle va... Ouais, j'ai envie de savoir ce qu'elle va devenir. Donc, peut-être pas forcément en série, peut-être que ce sera un roman ou un truc comme ça, mais j'ai envie de savoir, quoi.
Bah, je verrais bien un roman, parce que là, ils sont en train de parler de potentiellement une saison 2. Je suis pas très convaincue. Je pense que là, même si j'aurais aimé en voir plus, je trouve que là, ça se termine bien, ça se conclut bien. Et justement, ils ont fait quelque chose de beau, de réussi. Donc, faudrait pas trop tirer sur la corde. Mais effectivement, un livre, ça pourrait être vraiment sympa. Un livre ou un comique ou... Ouais, carrément.
Ouais.
Mais effectivement, t'as reparlé du moment où elle voit le symbole Jedi. Et effectivement, quand tu sais ce qu'elle a derrière la tête et que tu revois cette scène, ça...
C'est fort, ouais.
C'est fort, ouais. Et je m'étais pas réimaginé la scène après. Faudrait que je me refasse la série entière,
Ouais.
là.
Puis bah son face-à-face avec Leia aussi était assez assez satisfaisant. C'était.
Ouais.
Puis de voir qu'elle impose, enfin qu'elle inflige à Leia ce qu'on lui a infligé, en fait, c'est. Ouais, c'est. Mais ouais, elle est complètement. Mais par contre, le fait qu'elle se. Enfin là, je trouve qu'ils. C'est vrai qu'ils en font peut-être un peu trop avec tous ces personnages du côté obscur qui survivent grâce à leur haine. Là, ça devient un peu récurrent depuis Dark Maul jusqu'à Riva, en passant par le Grand Inquisiteur, Anakin aussi, au final. Hein, mais c'est. Je comprends le thème. Enfin, du coup, c'est répétitif et il y a. Ouais, y a cette idée que. Quand tu t'accroches, quand tu t'accroches à ta haine et au côté obscur, tu peux te remettre de blessures, mais ça veut dire que tu es dans une souffrance perpétuelle, quoi. Mais c'est un peu too much, légèrement.
Ouais.
Mais je comprends ce qu'il y a derrière, mais je suis d'accord que bon, c'est un peu facile. Bon, on a déjà du coup parlé de plein de choses qu'on a adorées et surtout de la qualité de la construction et de la manière dont ça s'intègre dans tous les films Star Wars. Mais moi, j'ai vraiment l'impression, et ça a été encore renforcé par je sais, un compte Instagram qu'on suit toutes les deux, Star Wars Parallels,
Ouais.
qui se joue à montrer des échos, des répétitions et des parallèles entre les différents moments Star Wars. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a absolument tous les films Star Wars qui sont évoqué où il y a des parallèles dans le film, enfin dans la série. Bon, on peut les faire tous hein, dans l'ordre, du 1 jusqu'au 9. L'épisode 1, bon, évidemment, je pense que bébé Luke et bébé Leia, ça fait
Bien
penser
sûr.
à bébé Anakin. Hein, et justement, quand tu parlais que c'était un parfait mélange des deux, quand on repense au jeune Anakin, on trouve vraiment ce mix
Il colle bien.
des deux. Alors Luke, on y est beaucoup moins développé, mais juste visuellement, le voir jouer au pilote, etc. Forcément, ça fait penser à Anakin au même âge. Et puis
Tellement.
Leia,
Et puis
t'es
Leia,
désolée,
le
quoi. Ouais.
caractère, ouais. Ouais, il n'y a pas
C'est
photo.
clair. Après, il y a Qui-Gon, forcément, en écho à l'épisode 1,
Oui.
évidemment. C'est un écho assez marquant. Épisode 2. Il y a.
La ville?
Ouais, complètement. Dans l'épisode 2, justement, de la série. Ouais. L'esthétique, les références à Padmé, puisque c'est quand même dans l'épisode 2, je trouve que dans le film, l'épisode 2, qu'on voit le plus, j'ai l'impression quand même le caractère de Padmé, donc la manière dont
Oui.
Leia, certaines tenues de Leia, certains
Oui.
moments, ça fait penser à la Padmé de l'épisode 2, je pense, quand même.
Oui, complètement.
Et puis, bah, évidemment, le flashback de l'entraînement entre Obi-Wan et Anakin, ils sont dans la
Oui, parce que...
timeline de l'épisode 2, puisqu'ils ont leur coupe de l'épisode 2.
Il a encore ses deux mains, le sabre
Il a sa
bleu.
petite tresse,
Ouais.
Obi-Wan a son magnifique mulet.
Par contre, du coup, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'ils ne l'ont pas rajeuni, Anakin, pour cette scène.
Ouais, ça. Sur le coup, j'étais genre, oh, ok.
Ouais. En fait, d'un côté, je me suis dit, oh, bah, au départ, je me suis dit, oh, c'est dommage, c'était censé y être pour vraiment longtemps. Et puis de l'autre, je me suis dit, en fait, c'est un flashback, il se remémore, donc il n'est pas obligé de se le remémorer exactement la tête qu'il a maintenant. Et puis pour une fois que, justement, ils rajeunissent pas à tout prix des acteurs, voire dans l'extrême, c'est pas choquant du tout, quoi. Oui, il a des petites rides au niveau des yeux, bah, moi aussi j'en ai, et puis voilà, c'est tout.
Ne critique pas les rides au coin des yeux. Hein. Mais ouais,
Exactement.
c'est vrai, t'as raison. En plus, cette scène, elle est vraiment. Quand on pense que c'est un peu dans l'idée de l'épisode 2, mais Coruscant ne ressemble pas du tout à le Coruscant de l'épisode 2. C'est très lumineux, un peu flottant, un peu idéal. C'est comme vraiment un souvenir idéalisé. Parce que le
Oui.
Coruscant de l'épisode 2, c'est beaucoup plus. Bah, c'est souvent de nuit d'ailleurs. Et puis, c'est plus. Bah, ce qu'on voit justement dans l'épisode 2 de la série, un côté un peu plus...
assez sombre, ouais. Nuageux.
Ouais, ouais. Ouais, t'as raison, c'est... ça colle avec cette idée de... Et puis, c'est l'occasion de voir quand même Hayden Christensen avec son vrai visage d'aujourd'hui, ce qui était...
Bah oui, ça aurait été tellement dommage.
Mmh. Hein, je suis d'accord. Mmh. Voilà, bon, épisode 3, je pense pas qu'on ait besoin de rappeler tous les parallèles. Voilà, ne serait-ce que les retrouvailles entre Obi-Wan et Anakin, ou Dark Vador traîne Obi-Wan dans le feu. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire plus évident.
Non, mais ouais, moi je crois que c'est la scène qui m'a... Mais c'est pareil, tu vois, je me suis dit... là, il y a eu une petite facilité scénaristique, le fait de le faire partir. Mais peut-être aussi, Anakin ne s'attendait pas à ce que ce soit simple. Et bah oui, parce qu'au final... Et si dur, psychologiquement, de devoir tuer son ancien maître. Et si simple aussi de le mettre à terre, parce que Obi-Wan était diminué, quoi. Donc... Je pense que ça peut s'expliquer.
Ah ouais, ah, j'avais pas pensé les choses comme ça, mais ouais, t'as raison. En plus, du coup, ça le renvoie peut-être un peu à, aussi à... Et à un moment, il se dit... Puis bon, je pense que c'est surtout que c'est dur. Enfin, même s'il a rêvé de ce moment pendant 10 ans de pouvoir se venger de cette manière-là, il est tellement drama, de toute façon, Anakin.
Oui.
Et là, sur le coup, il se dit... Waouh, en fait, ça trigger énormément de mes propres traumas, et il doit revivre en même temps, parce qu'ils sont tellement connectés, parce qu'en plus, on enchaîne avec le début de l'épisode 3, où ils sont tous les deux dans les cuves à Bacta, là, et où on a l'impression qu'ils repassent, ils repassent par la même, par les mêmes, les mêmes traumatismes, et les mêmes, sauf que la différence, c'est que, Anakin, il reste, il guérit jamais, alors que Obi-Wan, lui, il guérit, quoi. Ouais, mais là, c'est un gros, gros pareil avec l'épisode 3. Mais bon, de toute façon, toute la série est une référence à l'épisode 3.
C'est clair.
Alors, l'épisode 4, on en a énormément parlé. Mais bon, évidemment, c'est vraiment tellement la parfaite transition entre ces deux épisodes que tout fait référence à ces deux épisodes, de toute façon.
Oui. J'avais pensé aussi, tu sais, on a parlé de Leia qui demande de l'aide à Obi-Wan. Alors d'ailleurs, si... Nous, on se dit en mode, oui, on a dit au tout début, elle le connaissait puisqu'elle lui demande de l'aide. Mais en fait, non, pas exactement, parce que dans le 4, si je me souviens bien, elle lui dit un truc, vous avez aidé mon père et pas vous m'avez aidé moi. Mais bon, ça, c'est vraiment un micro-détail. Mais par contre, le fait qu'elle elle soit en... J'aurais pu retrouver le nom.
Un hologramme ?
En hologramme, merci. Le fait qu'elle soit en hologramme et que du coup, Bail Organa apparaisse... en hologramme aussi à Obi-Wan. Ouais. Là, j'étais là, mode. Oh
ah ouais, non, c'est ça, c'est...
J'aime ce genre de choses.
Ah ouais, ouais, ça marche trop bien. Et, et du coup, le fait qu'elle l'appelle Ben, enfin, qu'elle connaisse le surnom Ben Kenobi aussi. Et puis, du coup, je trouve que ça donne aussi un autre... Alors là, on passe peut-être... Enfin, on va revenir dessus, mais le fait qu'elle donne... Mais si on reste focus sur Leia, le fait qu'elle donne à son fils le nom Ben... Ça prend un tout autre sens, quoi, maintenant.
Ah oui, totalement. Donc, totalement.
Ouais, c'est quand même assez marquant. Alors, l'épisode 5, c'est... Les parallèles sont peut-être moins...
Ouais, ce que j'étais en train de me dire, sont moins présents.
Bah, après, forcément, du point de vue d'Obi-Wan... C'est le moment...
Il est plus là.
Oui, enfin, il est en fantôme, mais c'est dans l'épisode 5 où il dit, à Luke, d'un certain point de vue, j'avais raison en disant qu'Anakin est mort. Enfin bref, il y a tout ce petit jeu-là, parce que c'est là où c'est quand même dans l'épisode 5 qu'il y a toute la révélation. Ah ben non, c'est dans l'épisode 6, du coup, puisque...
Non, c'est dans le 6.
Enfin, c'est
dans
l'épisode 5 qu'il découvre ça, mais...
Mais dans l'épisode 6 qu'ils en parlent
Donc c'est plus... Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'écho à l'épisode 6 qu'à l'épisode 5, ça c'est sûr.
Oui.
Même visuellement, je pense que ça fait beaucoup, beaucoup plus écho à l'épisode 6 dans les duels, dans les thématiques. Non, épisode 5, c'est celui où il y a le moins d'écho, je pense. Mais épisode 6, c'est beaucoup plus évident. Épisode 7, il y a quand même...
Ah, J'ai vu un épisode 7, ça m'avait fait rire. C'est pareil sur le compte Star Wars parallèle. Quand Obi-Wan sort de la cuve en disant où est Leia, et que ça faisait tout de suite penser du coup à Finn qui cherche où est Rey. Et je trouvais ça trop mignon. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai.
Puis je dirais même le personnage du coup de Finn et le personnage de Tala, qui était du côté de l'Empire et puis qui se remettent en question et qui sont après à fond. Ouais, totalement. Ça fait, c'est un bel écho. Et puis, bah, je trouve que tout le début de Rey aussi, enfin, ça fait vraiment penser au début d'Obi-Wan. Rey qui va, est scavenger, je sais plus comment ils le traduisent, mais pieuse, enfin, je sais pas, bref.
Oui, c'est ça. Pieuse
des pannes. et Obi-Wan qui est dans son, et avec tous ces trucs qui se répètent aussi, le quotidien qui se répète pour Rey et le quotidien qui se répète pour Obi-Wan. Ça fait quand même des très très des échos assez assez marquants et, donc ouais, il y a quand même, c'est quand même assez évident. Et puis bon, bah évidemment on apprend, voilà, c'est là où on apprend que Leia a nommé son fils Ben, etc. Donc
oui, bah oui, bah
ça a du sens aussi.
Ouais, carrément. Ouais.
Alors l'épisode 8 pour moi, mais il y a tellement de parallèles avec l'épisode 8, c'est, ça m'a fait d'ailleurs, ça m'a d'ailleurs beaucoup, très plaisir, parce que l'épisode 8, j'aime beaucoup, et du coup, du coup, voilà, évidemment, le Luke de l'épisode 8 et l'Obi-Wan de la série. Hein, c'est,
ouais,
c'est...
torturé, psychologiquement.
Ouais, remettre en cause
ouais.
Les Jedi, enfin, ce qu'ils ont, l'échec des Jedi, etc. Même le fait d'aller affronter, dans l'épisode 6, du coup, quand Obi-Wan décide d'aller affronter... Dark Vador, ça fait très Luke qui décide d'aller affronter Kylo Ren, et même même l'esthétique là, avec justement cette planète avec ce face à face de samouraï là, ça fait très
ouais. Moi je suis moins fan du 8, hein, voilà, je l'ai déjà dit, donc mais oui, je suis d'accord.
Ouais. Et puis bah il y a, ouais, même je trouve par rapport à ce choix aussi, ça, le moment où Obi-Wan essaye d'expliquer à Leia qu'il doit aller se sacrifier, etc., et de lui faire accepter ça. Ça fait penser aussi à Rose et Rose et Finn dans l'épisode 8 aussi, où Rose dit que voilà, il faut se battre pour ce qu'on aime, et enfin, c'est ce qui ramène aussi Obi-Wan à faire les bons choix, etc. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui font écho. Évidemment, la scène où il soulève les rochers, ça fait évidemment écho aussi à Rey qui soulève les rochers. Donc ouais, ouais. C'est très, il y a beaucoup beaucoup de parallèles.
Il y a un parallèle, c'est pas dans les films, c'est dans la série Mandalorian. Et je pense qu'il doit y être, c'est obligé qu'il doit y être sur le compte Star Wars parallèle, mais c'est le combat, du coup, quand Obi-Wan arrive et, avec ses sabres laser contre les Stormtroopers. Tu sais, on est dans le noir quand il vient sauver Leia. Et ça, elle m'a fait penser à plein de scènes. Elle m'a fait penser à le combat. Je trouve plus mes mots. Il m'a fait penser aussi à un des films quand Ben et Rey se battent ensemble, parce qu'au niveau de l'esthétique monocouleur comme ça m'a fait penser à ça, et à la scène d'Ahsoka dans Mandalorian. Ouais. Pareil, dans la forêt où on voit juste les sabres laser et tout. Et en fait, ce côté effectivement tout sombre avec juste les sabres laser, on le retrouve souvent, hein, mais moi ça marche tout le temps.
Non, franchement, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de cet épisode, mais parce qu'il était peut-être plus... c'était peut-être le moins marquant, mais visuellement, il y a des moments qui sont très, très...
très forts.
Très chouettes. Ouais, je suis d'accord. Elle est trop bien, cette scène. Ouais. Et du coup, ça fait un petit peu penser aussi, même si c'est pas du tout la même ambiance, dans l'épisode 6, le film, le combat entre Anakin et... entre Dark Vador et Luke, qui est plutôt dans le sombre, dans le noir, avec les sabres qui s'allument aussi. C'est... Ouais. Et du coup, pour finir, épisode 8, pareil, il y a quand même pas mal d'échos. Alors, c'est vrai que j'ai vu, justement, cette fameuse planète du combat final entre Anakin et Obi-Wan, fait un peu penser à Exegol, par certains... C'est un peu un... On a l'impression qu'ils sont dans un entre-deux-mondes, quoi. Qu'ils sont un peu... dans un endroit hors du temps, presque. Ça fait un peu penser à Exegol. Et puis du coup, bah ouais, tout ce que traverse Obi-Wan, ça fait un peu penser aussi à ce que traverserait pendant ce combat, de se reconnecter à la force, etc. Ça fait quand même vachement, vachement penser à ça. En fait, il y a énormément de parallèles entre Obi-Wan et Rey, maintenant que j'y pense.
Ouais, que j'avais pas vu au départ. J'avais pensé comme toi à Luke, ouais. Mais pas à Rey. Ouais.
Bah d'ailleurs, c'est vrai que Rey, mine de rien, enfin, je sais que après l'épisode 7, on était quand même beaucoup à se demander s'il n'y avait pas un rapport filial ou en tout cas de famille avec, avec Kenobi. Mais, donc, ça, mine de rien, ça fait sens hein, thématiquement.
Ah, c'est vrai, totalement.
Et puis, bah. Ouais, le retour. Je pense aussi le retour à Tatooine à la fin du 9. Il y a un petit côté aussi. D'enterrer le sabre alors qu'il y a un moment où Obi-Wan le déterre le sabre dans la enfin le désable le sabre ouais. Ouais je pense qu'il y a ça aussi c'est il y a pas mal de cercles qui retournent au même point donc que ce soit dans l'épisode 9 et dans la série mais donc voilà c'est pour ça que ça fait autant Star Wars cette série hein. C'est qu'il y a
Je pense que, ouais, complètement. Mais c'est, comme on l'a dit, hein, c'est fait de manière hyper intelligente, donc on dirait pas juste un film fait par des fans, voilà, où ils mettent plein de références, et c'est sympa, et elle a été vraiment bien pensée. Après, elle est sortie en retard, hein, il me semble qu'elle a été retravaillée, y a eu le Covid qui a joué là-dedans, mais il me semble qu'ils sont aussi retournés des scènes. Ils ont pris leur temps. Ils ont beaucoup pris... Et bah, comme quoi, ça marche comme la série Arcane. Ils ont pris leur temps et ça fonctionne. Ouais. Et c'est un truc qui me fait peur, tu vois, avec le développement des plateformes comme Netflix, Prime, Disney+, où j'ai l'impression qu'ils adorent mettre plein de contenu, plein de séries, plein de films et tout. Et au final, des fois, il y a des choses... en un an, c'est tourné, c'est monté, etc. Et tu sens que la qualité n'est pas là.
Ouais. Bah... C'est pour ça que j'ai encore de l'espoir pour Andor, parce qu'ils ont vraiment pris leur temps pour Andor. Ça fait très longtemps qu'on entend parler, très longtemps qu'ils sont en production. Donc, ils n'ont pas hésité à revoir leur plan aussi. Ça devait être censé être une série en 5 saisons, maintenant ça va être 3 saisons. Mais du coup, on sent qu'il y a toute l'histoire qui est déjà pensée. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir pour cette prochaine série live de Star Wars. J'ai plus de doutes sur Ahsoka, sur tous les autres, en fait. Même Mandalorian saison 3, j'espère qu'ils prennent... Le fait qu'ils ont un peu bâclé la transition Boba Fett, ça fait baisser un peu mes attentes, même si je pense que ça va être cool quand même, mais je suis d'accord qu'il faut qu'ils prennent leur temps, et ouais. Mais c'est cool de voir tous ces trucs, parce qu'on a parlé de tous les parallèles avec les films, évidemment. Mais évidemment, il y a les parallèles aussi avec les animés. On a parlé des parallèles avec Rebels, avec The Clone Wars. Mais aussi les parallèles avec les jeux vidéo, même si j'ai pas joué. Toi, tu y as joué, Fallen Order, il y a beaucoup de parallèles avec...
Oui, il y a beaucoup de parallèles. Il y a des scènes, des ouais. lieux où on se bat dans Fallen Order et là, on revoit. Je dis, hey, Thibaut! Mais je connais ça, je connais. J'étais perdue là-dedans, j'arrivais pas à savoir la sortie. Oui,
c'est
oui.
C'est la forteresse des inquisiteurs, c'est ça. Là.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais, c'est. Mais il y a une rumeur là sur une série Fallen Order. Je la suis avec impatience. J'avoue qu'elle me plairait bien.
Bah et puis du coup, comme ils ont annoncé aussi la suite de Fallen Order, c'est Jedi Lost, je crois, ouais. C'est ça. Ouais. Voilà, le fait qu'on a eu la mention de Quillen Vost dans du coup qui est une référence à The Clone Wars. Donc on sait qu'il a survécu, c'est trop bien.
Il y a un super comic sur lui d'ailleurs.
Ouais, un comics ou des romans, non, il y avait un comics avec ouais.
Comics, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais. Enfin moi je crois que je l'ai lu le tome 1 et c'était un comics, je crois que c'était avec lui.
Mais ouais, donc...
Mais ouais.
Du coup, maintenant, ça pousse à avoir le rumeur. Est-ce qu'il va apparaître dans un live ou est-ce qu'il va apparaître dans le prochain Jedi Lost ça... Mais ouais, en tout cas, c'est une période qui est très, très chargée puisque Andor, ça se passe dans la même timeline, quelques années plus tard. Mais,
oui.
Donc, on commence à vraiment explorer tous les recoins là, de cette... cette période qui est cool, hein, parce que... l'élaboration de la rébellion, etc. C'est quand même intéressant. Ouais. Donc, ça nous donne envie de voir tout ça. Évidemment, on en parlera dans Pop-Té.
Ça, c'est sûr. C'est obligé.
Voilà.
Je pense non, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On va quand même refaire une petite pause pendant l'été. les filles qui arrivent, qui reviennent et qui repartent.
Ouais, mais c'est pas faute de choses dont on a envie de parler. Hein. On a une liste de sujets qui est très longue. Mais là, c'est plutôt une question de temps à consacrer et d'emploi du temps. Mais vous en faites pas. On sera là pour tous les grands événements qui télévisuels et cinématographiques qui arrivent. et oui, bah n'hésitez pas à partager ce que vous avez pensé d'Obi-Wan Kenobi sur nos réseaux sociaux, sur le Discord d'MSA où on a un channel dédié. On attend vos réactions, surtout sur Instagram notamment. Et puis voilà, partagez aussi vos attentes pour la suite. Et on vous dit à très bientôt.
Exactement.
Et que la force soit avec vous.